histoire avec Patrice Gélinet. Bonjour, bien sûr.
Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, un tueur en série qui a terrorisé Paris dans les années 90, Guy Georges.
Bonsoir. Peine maximale pour Guy Georges, perpétuité avec 22 ans de sûreté. Les jurés ont suivi à la lettre les réquisitions du procureur. Soulagement des familles de victimes qui souhaitent que Guy Georges ne sorte jamais de prison.
France Inter.
D'histoire. Tout a commencé le 25 janvier 1991 dans le 14e arrondissement de Paris. À minuit moins 10, les pompiers découvraient le cadavre d'une étudiante de 19 ans, violée et assassinée à son domicile 24 heures plus tôt. Annoncée par quelques lignes d'une dépêche de l'AFP, la nouvelle n'intéressa pourtant aucun journaliste. Ni la télévision, ni la radio, ni les journaux n'ont parlé de la mort de Pascal Escarfaille. Personne n'imaginait qu'elle était la première des 7 victimes d'un tueur en série qui, pendant 7 ans, allait tenir en échec 4 groupes de la brigade criminelle et terroriser plusieurs quartiers de Paris. Les tueurs en série, pensait-on, n'existaient qu'en Amérique, et Pascal Escarfaille n'était que la victime d'un crime parmi d'autres. Faute de fichiers ADN, on mettra d'ailleurs des années à établir un lien entre les 7 meurtres de Guy Georges et à identifier celui qu'on appelait le tueur de l'Est parisien. Arrêté le 26 mars 1998, il devait comparaître 3 ans plus tard devant la cour d'assises de Paris. France Inter, Fabrice Drouel, le 19 mars 2001.
Bonsoir. 4 agressions, 7 meurtres et autant de viols. Guy Georges est aux assises. Son procès s'est ouvert ce matin à Paris, très détendu. L'accusé se dit totalement étranger aux faits qui lui sont reprochés.
France Inter.
Guy Georges, avec cet homme-là et avec son histoire, n'importe quel cinéaste un peu inspiré fait un bon polar, genre Peur sur la ville. À ceci près que le méchant du film n'a pas du tout la tête de l'emploi. Ce matin, aux assises de Paris, pour l'ouverture de son procès, Guy Georges est arrivé détendu, courtois, attentif. Et pourtant, cet homme-là est l'assassin présumé, respectons la procédure, l'assassin présumé de Pascal, Catherine, Elsa, Agnès, Hélène, Estelle et Magali, violés puis égorgés. Et ça, c'est pas du cinéma.
Patrice Bertin, bonjour.
Bonjour, Patrice Gélinet.
Alors, cette affaire Guy Georges, en effet, c'était pas du cinéma. Vous venez de lui consacrer un livre qui s'appelle Serial Douleur, 7 familles face à Guy Georges. Alors, 7 familles qui sont au centre de votre livre. Vous dites d'ailleurs, vous écrivez, dans un meurtre, celui qui compte, ce n'est pas l'agresseur, c'est pas l'assassin, mais c'est la
victime.
Ce sont les victimes. C'est pas très courant comme démarche. Les journalistes, généralement, font le contraire quand ils parlent d'une affaire criminelle.
Eh bien justement, et on vient d'entendre le journal de Fabrice Drouel le jour de l'ouverture du procès, et ce qui n'était pas courant non plus, c'est de voir comme ça arriver dans le box des accusés un serial killer, un criminel en série, donc avec un bon sourire de Monsieur Tout-le-Monde. Et j'ai vu, parce que vous savez qu'on a le droit de filmer le début des procès, j'ai vu à la télévision ce tueur souriant, et je me suis dit, ça y est, ça va recommencer. Qu'est-ce qui va recommencer? Ce qui va recommencer, c'est que nous, vous, la presse, la télé, la radio, etc., on allait faire d'un assassin une vedette. Et je me suis dit, ça, c'est plus possible. Il faudra qu'un jour, on prenne, je dis pas le parti des victimes, ça serait un peu gros, mais d'aller voir quand même ce qui se passe du côté des victimes.
Alors vous voyez ce qui se passe et vous voyez ce qui se passe même après. Parce que votre livre commence par une scène qui pourrait paraître totalement surréaliste, c'est-à-dire une espèce de un repas le dimanche à la campagne chez la mère, dans une des familles des victimes, où qui rassemble tous les autres parents, qui rassemble aussi à ce déjeuner les juges, enfin quelques juges. C'est assez extra. Les avocats, c'est quand même étonnant. On dirait une partie de campagne. Et cela après le meurtre de leur enfant.
Alors ça s'est passé très exactement 6 semaines après le procès. Procès, condamnation de Guy Georges à perpétuité avec peine de sûreté de 22 ans, donc le maximum de la peine. Et 6 semaines après, l'une des familles de victimes a invité toutes les autres familles, presque toutes les autres familles, plus le juge d'instruction, ses gardes du corps, les flics de la criminelle, les avocats des parties civiles, à un déjeuner campagnard aux portes de Paris.
Parler d'un exorcisme collectif.
Tout à fait. C'est pas du tout de la fiction, hein, ce repas.
Il a lieu.
Il a eu lieu, et c'est sans précédent dans l'histoire criminelle. Ce sont des hommes et des femmes qui avaient tissé des liens pendant l'enquête, qui a été épouvantable, pendant le procès, qui a été épouvantable, et qui voulaient vivre autrement quelque chose en dehors du procès. Ce sont des liens qui sont toujours actuels, c'est-à-dire que les familles, les enquêteurs se voient, se passent des coups de fil et ont gardé le contact.
Alors autour des familles justement de ces sept victimes, sept jeunes filles, dont la première, je l'ai dit tout à l'heure, était Pascale Escarfaille, qui est morte en 1991. On n'a jamais su pendant des années qui était l'auteur de ce crime. Et d'ailleurs, en fait, on s'y est pas intéressé. On a cherché tous les dans l'INA toutes les archives de l'époque. On ne parle pas de ces crimes avant 97. Et pourtant, quand vous, parce que vous en faites le récit de ces meurtres, c'est d'une violence inouïe, la façon dont Guy Georges tuait ses victimes.
C'est terrifiant, c'est proprement terrifiant. C'était un prédateur absolu, c'est-à-dire que il choisissait ses victimes au hasard la nuit. Il les repérait dans la rue et il les agressait soit chez elles à domicile en grimpant derrière elles dans l'escalier et en les forçant à ouvrir la porte d'un coup d'épaule ou en sortant son couteau, soit dans leur parking. Et les scènes de crime sont absolument épouvantables. Les policiers que j'ai rencontrés ne s'en sont pas encore remis. Il y en a un d'ailleurs qui a donné sa démission de la brigade criminelle peu de temps après l'arrestation de Guy Georges. Et c'est vraiment le bien contre le mal. Je pense que c'était le mal absolu Guy Georges.
Et parce qu'il ne s'agit pas pour lui simplement de tuer, de violer. Il y avait toute une espèce de rituel. D'ailleurs, ça se terminait. Il laissait volontairement ses victimes mortes dans des postures humiliantes.
Oui, mais c'est le rituel chez un serial killer. Hélas, un serial killer, c'est quelqu'un qui recommence. C'est quelqu'un qui prend plaisir à faire ce qu'il fait. Guy Georges est un pervers. Pervers, ça veut dire qu'on prend du plaisir à faire du mal à autrui. C'est un criminel organisé, c'est-à-dire qu'il essayait de pas prendre de risques. Il savait très bien ce qu'il faisait. Il n'y avait pas d'altération à la réalité, pas fou. Et en même temps, le rituel, c'est-à-dire toujours de la même façon, en découpant les sous-vêtements avec le couteau, en torturant, en violant et en repartant avec des objets de la victime, non pas pour les conserver pour lui, mais pour les revendre.
Et c'est là jusqu'à la dernière victime, Estelle Magde, qui a été égorgée 7 ans après Pascale Escarfaille, le 16 novembre 97, au moment où on commence justement à comprendre que le coupable est sans doute un tueur en série. France Inter, Christophe Ondelat, le 19 novembre 1997.
Sans vouloir exagérer, on peut dire ce soir qu'une petite psychose est en train de gagner le 11e arrondissement de Paris, autrement dit les quartiers de Bastille et de République. Dans cet arrondissement, en effet, on a retrouvé le week-end dernier le corps d'une jeune femme de 25 ans, égorgée, chez elle. Et on pense que son assassin pourrait être un tueur en série, un serial killer, comme on dit aux États-Unis. J'imagine, Lionel Thompson, que dans le quartier, on est au courant.
Oui, les plus inquiets, à vrai dire, sont les voisins directs d'Estelle Magde, la jeune fille qui a été tuée le week-end dernier, rue de la Forge Royale. Parmi ses voisins, cette jeune femme qui travaille juste au pied de l'immeuble et habite dans le quartier.
Assez terrifiée, étant donné que ça s'est passé pas très loin de mon lieu de travail. Donc, ouais, je suis assez inquiète. Disons que je réfléchis à deux fois maintenant pour aller chercher ma voiture dans mon box. Et quand je rentre dans mon immeuble, je prends soin de fermer la porte derrière moi.
Alors, c'était en novembre 1997, Patrice Bertin, 7 ans après le premier crime, le premier des 7 crimes de Guy Georges, on commence enfin à dire c'est un serial killer.
Oui, alors pour une raison bien simple, c'est que les policiers disposent de l'ADN. Vous savez que c'est une empreinte génétique, ça ressemble à une empreinte digitale, mais beaucoup plus performante, trace génétique. Donc, ils ont retrouvé sur les deux derniers meurtres, donc celle dont on parlait, Estelle Magde, et la victime précédente un mois avant, Magali Sirotti, plus sur une jeune femme qui en a réchappé, il y a 3 traces ADN qui sont les mêmes. Donc il est évident pour les policiers qui ont pu comparer les 3 traces qu'il y a un seul et même meurtrier autour des 2 meurtres et de la tentative de meurtre dont je vous parlais. Et la presse, avant de cela, le Parisien libéré, notamment le Parisien, fait un reportage en disant « il y a un serial killer dans Paris ». C'est-à-dire que la police qui essayait de garder ça pour elle est obligée d'admettre qu'il y a effectivement un tueur en série dans les Paris. Le préfet de police de Paris, Philippe Massonnier, arrive aux 20h à la télévision pour faire une intervention de 20 secondes en disant « Parisienne, faites attention, mais nous faisons tout notre possible ». Ça, c'est donc à la fin, au début de l'hiver de 97.
Mais on ne sait pas encore qui est un tueur en série. Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on pourrait se dire « on ne l'a pas trouvé pendant 7 ans parce que, finalement, il est inconnu des services de police ». Pas du tout. Vous rappelez, dans sa biographie, Patrice Barfa, dans sa biographie, quand vous parlez de lui, vous rappelez qu'il était connu depuis très longtemps. Hein, en bref, il faut rappeler qu'il est né en 1962, qu'il n'est pas antillais, comme le disaient certains journalistes, mais qu'il est né, je crois, d'un père américain qui travaillait...
de l'OTAN.
Pour l'OTAN, qui est parti.
Il
savait même pas qu'il avait un fils. Sa mère l'a abandonné. Mmh. Il est dans une famille d'accueil, les Morins. Très vite, il se distingue par sa violence. Je crois qu'à l'âge de 14 ans,
il tente de tuer une demi-sœur. Il tente de tuer une demi-sœur, puis deux ans après, 16 ans, il tente de tuer une deuxième demi-sœur. À ce moment-là, il est confié à la DAS, puis confié aux époux Morin. Il a une vingtaine de frères et sœurs de lait, et il commence à agresser des femmes. Il commence à les agresser, j'allais dire crescendo, jusqu'à viol et tentative de viol, et il est une première fois condamné à 10 ans de prison pour le viol d'une étudiante à Nancy. Et il fait que la moitié de sa peine. Il a une remise de peine, et c'est pendant cette remise de peine qu'il commettra le premier crime dont vous avez parlé au début de cette émission, Pascal Escarfeil, en 91.
Et alors, il y a des, donc il commet tous ces crimes entre 91 et 97. Il y a quelques trous quand même, et notamment il y en a un, qui, en 1995, je crois, et au 96, il n'y a pas d'assassinat. Pourquoi? Parce que, il est en prison. Il est en prison non pas du tout pour des meurtres, parce qu'on ignore encore que c'est lui qui est responsable déjà de 4 meurtres, mais il est en prison pour une agression au couteau. Et il y a une scène incroyable que vous raconterez, Patrice Bertin. Il est même convoqué par le groupe de la police criminelle qui fait une enquête pour savoir qui a tué les 4, qui est responsable des 4 morts précédents. Autrement dit, le commissaire Sanderson qui reçoit Guy Georges dans son bureau, qui cherche le coupable de 2 de ces meurtres, il a en face de lui le coupable et il le laisse partir. Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est le 19 septembre 1995. En fait, il y a 2 commandants de la criminelle qui sont quasiment à plein temps sur cette affaire. Et il y a le commandant Pellegrin et le commandant Sanderson. Le commandant Pellegrin enquête sur les meurtres commis dans les parkings, il y en a 2. Le commandant Sanderson enquête sur les meurtres commis dans les appartements. En fait, il y en a 3, mais lui, il n'en a que 2 sur lesquels il enquête. Et il est sorti de prison, Guy Georges. Il est sorti de prison parce que la criminelle veut interroger tous les suspects potentiels qui attaqueraient les femmes avec un couteau. Or, Guy Georges vient d'attaquer une femme avec un couteau. Il n'a pas pu aller jusqu'au bout parce qu'heureusement, cette femme, son compagnon s'est interposé. Guy Georges est donc amené dans les locaux de la criminelle. Le premier commandant Pellegrin, il dispose d'une tache de sang qui a été retrouvée sur les effets d'une victime. Il compare avec l'ADN de Guy Georges. C'est pas le sang de Guy Georges. Pourquoi? Mystère, on saura jamais d'où vient ce sang. Donc Pellegrin se dit c'est pas lui. Mais il va frapper à la porte de son voisin, le commandant Sanderson, qui lui aussi enquête sur les meurtres de Guy Georges. Et là, Sanderson va faire le ratage de sa carrière. Pas de sa faute sans doute, mais ratage de sa carrière. Il a le témoignage d'une jeune femme rescapée. Et ce témoignage s'avère être ce qu'on appelle un vrai mauvais témoignage, un faux bon témoin. Cette femme qui est restée une demi-heure avec Guy Georges, qui a failli être assassinée par Guy Georges, qui en a réchappé parce qu'elle a sauté par la fenêtre, eh bien, elle le décrit très différent de ce qu'il est. Elle ne le reconnaît pas sur les photos qui sont prises ce jour-là par Sanderson. D'autre part, Sanderson a un indice, c'est qu'il a laissé une trace de pied égyptien au domicile d'une victime. Qu'est-ce que c'est qu'un pied égyptien? C'est lorsque le deuxième orteil est plus important que le pouce du pied. On se dit donc, le coupable a un pied égyptien. Alors on fait déchausser Guy Georges dans les locaux de la criminelle et on s'aperçoit qu'il n'a pas le pied égyptien. Alors on se dit, il ressemble pas à la description faite par la survivante, il n'a pas le pied égyptien, c'est pas lui. À l'explication du pied égyptien, en fait, c'est morbide, mais c'est comme ça. Guy Georges avait glissé dans une flaque de sang, ce qui fait que le point d'appui de la deuxième phalange était plus important que le pouce, on a cru qu'il avait le pied égyptien. Sanderson s'est dit, c'est pas lui, donc il fait pas de prélèvement ADN. S'il avait fait un prélèvement ADN, on l'aurait trouvé.
Oui, et surtout, donc il laisse filer celui qu'il recherche,
et ben voilà.
Puisque c'est pas lui, a priori. Mmh. Et surtout, il y a deux autres meurtres qui vont être commis après sa sortie de prison.
Parce qu'en fait, il retourne en prison, Guy Georges. Hein, ouais. Il purge une peine de prison pour agression.
Mais il va faire encore deux meurtres.
Deux meurtres, absolument.
C'est les deux derniers. Et c'est justement à ce moment-là, après le deuxième, que se produit l'espèce de psychose. On a entendu ça tout à l'heure dans une archive de France Inter. Et que finalement, il est arrêté, Guy Georges, le 2 mars 1998. France Inter, Christophe Ondelat.
Il est probable que ni Sherlock Holmes, ni le commissaire Maigret, ni l'inspecteur Colombo n'auraient pu arrêter aujourd'hui le tueur de la Bastille, car pour identifier l'assassin présumé de 3 femmes et peut-être de 7, il fallait plus qu'une loupe, plus que le savoir-faire légendaire d'un vieux flic. Ce matin, c'est la science qui a permis d'arrêter le suspect numéro 1. C'est la génétique et on va y revenir dans un instant. Mais parlons d'abord de lui. Il s'appelle Guy Georges, il a 36 ans, il est antillais, SDF. Il a été arrêté ce matin, presque par hasard, à l'intérieur du Monoprix de la Place Blanche à Paris. Une vendeuse du grand magasin raconte l'arrestation à Frédéric Carbone.
J'ai vu deux messieurs plaquer un autre, donc j'ai pris peur. J'ai d'abord voulu appeler directement la police parce que je pensais que c'était une bagarre. Et quand j'ai vu sortir des menottes, j'ai compris que c'était des policiers en civil. Et après, je les ai vus jubiler, sauter de joie. Mais maintenant, oui, je suis contente comme tout le monde, quoi, et un peu aussi soulagée. Mais sur le coup, j'ai pas réalisé l'importance de ce qui se passait en face de moi, quoi.
Et c'était l'arrestation de Guy Georges le 26 mars 1998 et non pas le 2 mars, comme je l'ai dit à l'instant. Extraordinaire aussi cette scène d'arrestation. Comment ça s'est passé? Comment a-t-on finalement pu localiser et arrêter Guy Georges?
Alors, il se trouve que le juge Thiel, le juge d'instruction Gilbert Thiel, après le 7e meurtre, il explose. Il dit c'est plus possible. On a des ADN, on ne sait pas à quoi les comparer parce qu'il n'y a pas de fichier. Il n'y a pas de fichier parce que c'est interdit. Les interdits, je m'en fous. Il y a eu 30 mortes. Donc, j'ordonne à tous les laboratoires scientifiques, de police ou pas de police, privés ou publics, de comparer les ADN qu'on a trouvés sur les derniers crimes avec ceux qui sont déjà stockés.
C'était illégal, ça?
C'est totalement illégal à l'époque où ça se produit, c'est-à-dire fin 97. 4 mois après, le docteur Olivier Pascal du CHU de Nantes découvre l'identité de Guy Georges. Il téléphone au juge d'instruction et il lui dit « Monsieur le juge d'instruction, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on a identifié le coupable. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on l'a eu dans les locaux de la criminelle pendant une journée qu'on l'a laissé ressortir. Donc on met le nom, l'identité, etc. Et à ce moment-là, la presse commence à le savoir. Une radio annonce à 7h du matin que le serial killer de l'Est parisien a été identifié.
Pas la nôtre,
mais c'est la panique à bord. Mmh. C'est la panique et on fait tirer très vite des photos d'identité, des petites photos distribuées à tous les policiers parisiens de Guy Georges. Et ce sont deux flics de base, de la 2e DPJ, 2e division de la police judiciaire, qui, en comparant la photo aux gens qui sortent du métro, avec un peu de chance, tombent sur Guy Georges, c'est eux qui lui sont tombés dessus, et l'arrêtent. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ce sont les plus grands flics de France qui cherchaient Guy Georges depuis 7 ans, et que ce sont au bas de l'échelle, les plus petits flics de France, si l'on peut dire, qui finalement l'ont ceinturé. Paradoxe. La criminelle le cherchait ce sont des gardiens de la paix qui l'ont serré, comme disent les policiers.
Et ils l'ont serré, il va être serré à la santé donc pendant 3 ans en attendant son procès. Alors là aussi, vous dites quelque chose d'assez extraordinaire, c'est l'espèce de fascination qu'il exerce sur les psychiatres, bien sûr, qu'il rencontre, et y compris sur des gens de l'extérieur, notamment beaucoup de femmes, qui lui écrivent fascinées par ce tueur en série, et qui font plus que lui écrire. Je crois qu'il y a même une proposition de mariage. On lui paye son abonnement à la télévision. Enfin,
plus que ça, Guy Georges est en train de se marier. Alors, je vous parle...
Mais là, il est en prison après le procès, mais même...
Mais ça, c'est un grand classique des serial killers, c'est que tous les serial killers ont un fan club. Charles Manson, l'assassin de Sharon Tate, l'actrice qui était à l'époque la femme de Roman Polanski, a un fan club extravagant aux États-Unis avec des sites web qui lui sont dédiés, des t-shirts à son effigie, etc. La fascination qu'exercent les serial killers est proprement monstrueuse. Regardez Fournireur, regardez Allègre, Patrice Allègre.
Oui, parce que justement, là je vous coupe, Patrice Bertin, on a l'impression en vous lisant qu'au fond c'est le premier tueur en série, serial killer si vous préférez, en France. Or, 10 ans avant, il y a eu l'affaire Thierry Paulin qui avait assassiné 21 femmes, puis en remontant dans un passé encore plus lointain, il y a eu Landru, Petiot.
Oui.
En quoi est-ce que, justement, Guy Georges est différent?
Il n'est pas différent. Il est emblématique parce qu'il n'y a pas de mobile. Il tue simplement.
Voilà, c'est ce que vous dites. C'est là-dessus que vous insistez.
Il tue pour le plaisir. Il tue les
Landru victimes. Et les autres, c'était pour les escroquer aussi.
Bon, là, je dis pas que c'est mieux.
Non, bien sûr.
Là, il y a l'absence de mobile. Il y a le fait que ces jeunes femmes, ces pauvres jeunes femmes, qui ne se ressemblaient pas, mais qui étaient toutes ancrées dans la vie plutôt dynamique, positive, aucune d'entre elles n'avait pris de risque. Elles ne fréquentaient pas des endroits compliqués, louches. Ce qui les a condamnées à mort, c'est simplement de croiser Guy Georges un soir au mauvais moment, au mauvais endroit. C'est tout. Ça, c'est emblématique du tueur en série.
Avec une formule qu'il emploie, il chasse, en fait.
Il chasse. Ah non, mais il chasse. C'est un prédateur. C'est un prédateur qui a une double vie, comme la plupart des tueurs en série. C'est-à-dire que le jour, il est à peu près normal. Il a des compagnes, des compagnons. Il est plutôt sympa. Il a un QI de 101. C'est pas énorme, mais c'est plutôt bien. Il présente bien. Il est sympathique avec tout le monde. Il est plutôt gentil avec les flics quand il est arrêté. Et c'est un taulard formidable, hein, sans histoire.
Et il fait plutôt bonne impression, d'ailleurs, si on peut dire, hein, le jour où il se présente à son procès, le 19 mars 2001, François Bedonnet.
La plongée dans l'horreur depuis 10 heures ce matin aux assises de Paris avec le procès de Guy Georges, 38 ans, surnommé le tueur de l'Est parisien. Fabienne Sintès, vous êtes en direct du Palais de Justice de Paris. Dans quelle ambiance s'est ouvert ce procès tant attendu par les familles des victimes?
Je vous laisse imaginer la tension qui régnait à l'ouverture de l'audience. Toutes les parties civiles regroupées en famille pour la plupart qui guettaient l'arrivée de Guy Georges. Et lui qui est apparu dans un t-shirt vert, le cheveu ras, très décontracté, très à l'aise, souriant, même parfois en dialoguant avec son avocat. À la question du président à Guy Georges, qu'est-ce que vous avez à dire? Lui a répondu, je n'ai rien à dire, la voix est forte, elle est parfaitement claire et assurée. Et cette phrase, je n'ai rien à dire, il y a toutes les chances pour qu'on l'entende souvent au cours de ce procès.
Effectivement, on va l'entendre pendant les 8 premiers jours du procès. Là, il avait avoué ses crimes pendant l'instruction.
Oui, bien sûr.
Et là, il les nie.
Oui, mais c'est un système de défense classique. Il faut dire qu'est entré en scène un avocat qui s'appelle Maître Alex Ursulet, qui est un disciple de Jacques Vergès, grand théoricien de la défense de rupture, c'est-à-dire on va accuser tout le monde, sauf mon client, on va dire que c'est de la faute de la presse, qu'il y a une campagne, etc. Et il a duré 3 semaines, le procès. Et il y a eu 3 temps. Dans un premier temps, l'avocat et Guy Georges nient tout. C'est pas moi, on m'a extorqué mes aveux. Dans un deuxième temps, Guy Georges, sous le feu croisé des avocats des parties civiles, perd pied et commence à s'embrouiller. Et à ce moment-là, son avocat se tourne vers lui et l'agresse. En pleine audience, il lui dit « Guy Georges, vous êtes mon pire ennemi ». C'est quasiment sans précédent dans les assises,
des assises,
qu'un avocat se tourne vers son client en lui disant « Vous êtes mon pire ennemi ». Et puis, la troisième séquence, surréaliste, Guy Georges a totalement changé, il s'est rasé le crâne, il est plus habillé en vert ou en noir, il a un pull blanc, symbole de l'innocence, et c'est son avocat, l'avocat de la défense, qui lui extirpe ses aveux. Oui, cette fois, il dit oui, cette fois j'ai tué.
Et ça se passe donc le 27 mars 2001.
Il vient d'avouer, oui, à l'instant, il vient d'avouer les 7 assassinats. C'est son avocat, Frédéric Ponce, qui a voulu lui poser une question, qui lui a demandé, est-ce qu'aujourd'hui vous voulez dire quelque chose? Non, répondit Georges. Maître Ursulet, à l'attaque cette fois, ni les familles ne comprendront, ni vous, ni personne, non encore. Guy Georges revient à nouveau à l'attaque Alex Ursulet en lui parlant de son père, de sa famille cette fois. Et cette fois, Guy Georges baisse la tête. Avez-vous tué Mademoiselle Scarfile? Oui. Avez-vous tué Mademoiselle Rocher? Oui. Avez-vous tué Mademoiselle Frinking? Oui. Et à chaque fois, il répondra oui. Guy Georges baisse la tête, il pleure, il vient enfin d'avouer donc ces sept meurtres et assassinats.
Écoutez maintenant la réaction poignante de Liliane Rocher. C'est la mère de Cathy Rocher, assassinée par Guy Georges en janvier 94.
Est-ce que, instinctivement, vous avez eu envie de lui dire quelque chose à lui?
Je lui ai dit, nos regards se sont croisés, j'ai eu un mouvement de lèvres pour lui dire merci, et lui a eu un mouvement de tête. Si l'on m'avait dit qu'un jour je dirais merci à l'assassin de ma fille, pour moi ça aurait été complètement insensé.
C'est incroyable cette réaction de Madame Rocher. Sa fille a été assassinée par Guy Georges et elle le remercie parce qu'il avoue.
C'est absolument incroyable. Liliane Rocher est une femme formidable, et elle n'a plus personne dans la vie. Son mari est mort lui aussi, il s'est laissé mourir à petit feu après l'assassinat de leur fille. Liliane Rocher, elle n'est pas allée comme ça du jour au lendemain au procès. Elle s'est habituée à l'idée qu'elle allait faire face à Guy Georges. Savez-vous ce qu'elle a fait avant d'aller aux assises? Non. elle s'est obligée à suivre d'autres procès pour viol, pour s'habituer à la violence des assises. Et quand elle est allée aux assises, elle a fait comme toutes les autres familles, elle a guetté Guy Georges, elle l'avait en face de lui, elle a d'abord pas compris, il était plutôt beau, il était plutôt sympathique. Ensuite elle s'est dit, ce que tout le monde pense, c'est un monstre. Et puis quand il a avoué, elle a dit merci parce que ça l'a soulagée. Et ensuite, elle s'en est voulu d'avoir dit merci. On en a discuté longtemps, très longtemps. Cette femme est extraordinaire, comme toutes les familles que j'ai rencontrées d'ailleurs. Et c'est sûr que, sur le coup de l'émotion, il se passe dans le prétoire, comme dans la vie, des choses proprement extraordinaires.
Alors, ces aveux de Guy Georges, obtenus, chose extraordinaire, vous le disiez, par les propres avocats de Guy Georges, qui sont presque des avocats à charge, comme si ça existait.
Okay. Très théâtral.
Mais c'est quand même assez inouï. Ça n'empêche pas Guy Georges d'être condamné donc à la perpétuité, avec 22 ans de peine incompressible, c'est-à-dire qu'il peut, il ne peut sortir que...
En 2018.
On a une idée de son comportement en prison aujourd'hui?
Ah, c'est un détenu exemplaire.
Comme il l'a été, parce qu'il a été maintes fois détenu.
Mais c'est l'endroit le plus sécurisant pour la société, puisqu'il est hors d'état de nuire. Et pour lui, alors, il est en train de se marier, il a une petite amie avec qui il espère avoir un enfant, il a fait une demande pour un parloir sexuel, il dispose de la télévision, de plusieurs chaînes, le câble, il a de quoi faire du cardio training tous les jours, et il est à l'isolement le plus complet, évidemment, pour éviter que d'autres détenus lui fassent un
sort. Il a déjà bénéficié de remise de peine, on pourrait imaginer qu'il recommence, même s'il a 58 ans en 2018. Ce que je voulais savoir aussi, Patrice Bertin, parce qu'on a vu à quel point ça avait traîné, est-ce qu'aujourd'hui, on mettrait autant de temps pour trouver, au bout de 7 ans, tueur en série comme Guy Georges?
Non,
à cause du fichier ADN.
Dieu merci, grâce, si l'on peut dire, à Guy Georges, il y a maintenant un fichier ADN qui n'existait pas au moment de Guy Georges, qui a été créé dans la foulée du procès. Fichier ADN qui permettrait maintenant d'identifier beaucoup plus vite, en tout cas de sauver au moins deux vies. À cette date, en France, il y a 25 profils génétiques qui sont jalousement conservés dans un fichier ADN. À titre de comparaison, il y en a 2 millions en Angleterre, mais il y a quand même ce fichier ADN. Et puis un autre fichier qui s'appelle le SALVAC, qui est un fichier des modes opératoires qui permettrait tout de même de comprendre qu'au bout de 2 ou 3 crimes commis de la même façon avec un couteau, c'est peut-être un serial killer.
Merci Patrice Bertin. Au moins, si je puis dire, Guy Georges aura permis une avancée considérable en ce qui concerne les enquêtes policières. Je rappelle que vous êtes donc l'auteur d'un livre vraiment passionnant, Serial Douleur, cette famille face à Guy Georges, qui a été publié donc au Cherche Midi avec la collaboration de France Inter. Vous pouvez retrouver cette référence en contactant les services des relations auditeurs, en composant le 3230, puis en tapant la touche 1, 34 centimes la minute, ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Patrick Henry, Bénédicte Rouen, documentation Virginie Bocléné, Claire Tessier.